Avis critique.
Raphaël Bourgois.
Les idées au banc d'essai Avis critique explorent toutes les disciplines et les indisciplines. Ce soir, comme chaque semaine, deux essais sous les feux de la critique, deux livres qui se penchent sur l'impossible équilibre mondial. Dans l'affolement du monde, publié chez Talendier, le directeur de l'Institut français de relations internationales, l'IFRI, Thomas Gomard, s'interroge sur ce qui régule encore la marche de la planète. L'impression de chaos qui domine aujourd'hui au gré des accords rompus, des alliances fragilisées, d'un affaiblissement des démocraties libérales et de tout un ensemble de risques et de menaces l'amène à décortiquer 10 enjeux géopolitiques pour aujourd'hui et demain comme une réponse au pessimisme ambiant. Pessimisme qui est en revanche bien présent dans le second essai dont il sera question ce soir, « La guerre qui ne peut avoir lieu » de Jean-Pierre Dupuis, publié chez Desclés de Brouwer. Contrairement à ce que le titre laisse penser, le philosophe père du catastrophisme éclairé mène ici une réflexion trop rare sur la possibilité d'une guerre nucléaire. Et en studio pour débattre ce soir, Eugénie Bastier du Figaro. Bonsoir Eugénie.
Bonsoir.
Et un revenant, Jean-Pierre Baume du Monde. Bonsoir Jean.
Bonjour.
Ça faisait longtemps que
vous
n'étiez pas venu. Alors je vous propose de commencer par le livre de Thomas Gomard, L'affolement du monde, 10 enjeux géopolitiques aux éditions Talendier. Donc Thomas Gomard est historien, directeur de l'Institut français des relations internationales depuis 2015. C'est un spécialiste à l'origine de la Russie et plus largement de l'espace post-soviétique, des questions de sécurité, énergétique et numérique. Bref, de tout ce qui occupe aujourd'hui la pensée géopolitique. Le livre part d'un constat assez largement partagé. Plus rien ne semble réguler la bonne marche de la planète. Rupture d'accords, alliances fragilisées, affaiblissement des démocraties libérales, basculement géoéconomique vers l'Asie, menaces nationalistes, risques écologiques. Politique du tweet, le monde serait-il devenu incontrôlable? Thomas Gomard propose dans cet essai de porter un regard d'historien et de spécialiste des relations internationales sur les 10 situations qui transforment le rapport de force, à la fois sur les enjeux politiques qui touchent les États, montée en puissance de la Chine, unilatéralisme américain, fragmentation de l'Europe, retour de la Russie, mais aussi les grandes questions transversales que sont l'énergie, le climat, les transformations de la guerre, le cyber et l'espace, la pression démographique et migratoire. Enfin, au centre de cette réflexion, de ces études de cas, une interrogation: est-on face au retour des grandes peurs, de la panique et du chaos? Ou au contraire, assiste-t-on à la première étape d'un mouvement de reconstruction de l'espace mondial vers plus de coopération? Thomas Gomard essaie de ne pas complètement nous désespérer en proposant des clés, des scénarios pour l'avenir. Jean-Pierre Baume, c'est un livre utile, c'est même, on pourrait dire, presque un manuel de survie ou pour s'orienter dans un monde complètement déboussolé.
Oui, c'est un livre intéressant parce qu'effectivement, il nous aide avec une certaine modestie, en même temps pas mal de rigueur, à cartographier un peu les choses, non seulement nos peurs, mais aussi les enjeux contemporains de la géopolitique. On est aujourd'hui dans une espèce de goraphisation de la géopolitique. Souvent, on a l'impression que les choses sont grotesques ou absurdes, tellement on assiste à des scènes entre Trump, la Corée du Nord, etc. Enfin, par pas mal d'aspects, on a souvent l'impression d'avoir affaire à des choses grotesques. Et en fait, en même temps, les choses sont très sérieuses. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce livre, Thomas Gomard revient, enfin il y a une espèce de refrain, il reprend une ancienne très classique de, effectivement, comme vous l'avez dit, comme s'il y avait une décomposition de nos grilles d'analyse, comme si on pouvait plus rien y comprendre. Mais en fait, ça fait très longtemps qu'on dit qu'on peut plus rien y comprendre. Je me souviens qu'au lendemain du 11 septembre, des attentats du 11 septembre, il y avait eu plein de livres disant que toute notre grammaire géopolitique était en ruine, que ce qui s'était effondré avec les tours le 11 septembre 2001, c'était pas seulement un symbole de l'Amérique, mais c'était tout notre imaginaire géopolitique, que tous les concepts sur lesquels cet imaginaire était basé, la frontière, la souveraineté, le territoire, tout ça n'avait plus cours, n'avait plus de valeur, et qu'on entrait donc dans un monde de chaos. Certains citaient Hobbes et l'état de nature, et ils disaient, voilà, on rentre dans quelque chose qui est très compliqué, on n'a plus les outils pour le comprendre. Et notamment, et c'est ça qui est intéressant, c'est que Thomas Gomard arrive à une étape supplémentaire. À l'époque, on disait, on rentre dans une chose, dans un monde chaotique, où finalement, il va y avoir l'Occident et les autres, et l'Occident va partir comme ça, dans une espèce de course-poursuite avec la guerre préventive. On va essayer d'aller frapper en permanence là où il y a des ennemis. Il y a eu ce livre d'Ariel Kolonomos qui s'appelait Le pari de la guerre, qui était justement sur ce concept de guerre préventive. Mais encore à l'époque, donc pendant toutes ces années, on était dans l'idée que c'était une sorte de face-à-face. L'Occident allait essayer de courir après l'ordre géopolitique qui s'était effondré, non seulement avec la fin de la guerre froide, mais avec les tours à New York. Et il y avait quand même cette idée donc d'un Occident qui va continuer à se projeter et qui va continuer à faire la police dans le monde entier, en allant, donc, c'est ce que Pierre Asner appelait un wilsonisme beauté. Donc il y avait tout cet imaginaire des néoconservateurs américains où on allait donc, nous occidentaux, nous européens, nous américains, continuer à essayer de jouer les shérifs du monde. Or, en fait, Thomas Gomard m'a décrit un monde qui n'est plus du tout celui-là. Il arrive après un moment où on a constaté toutes et tous que nous ne sommes plus seuls au monde, selon la formule de Bertrand Badie dans un autre livre. Et donc, ce livre-là, le livre de Thomas Gomard, est intéressant parce que il vient non seulement montrer que c'est fini, ce face-à-face des Occidents et des autres, mais que même, c'est pas seulement que nous ne sommes plus seuls au monde, comme on l'a longtemps cru, c'est que même les Occidentaux sont un acteur parmi d'autres et peut-être un acteur mineur. Il y avait ce livre fameux de Robert Kagan, grande figure du néoconservatisme américain, La puissance et la faiblesse. Eh bien, avec Thomas Gomard, on comprend qu'aujourd'hui, contrairement à ce qu'on n'a pas vraiment su pendant très longtemps, la faiblesse n'est plus là où on croit et la puissance non plus.
Et surtout, les enjeux de puissance, associés évidemment au jeu des nations, restent très très présents. Même si on a pu croire, par exemple, après la chute du mur de Berlin, Eugénie Bastier, avec les années 90, l'hyperpuissance américaine et une sorte de communauté internationale qui semblait se mettre en place, on pensait croire que la guerre n'était plus d'actualité, que les affrontements entre les puissances non plus et qu'on était dans autre chose. Là, ce que nous montre Thomas Gomard, c'est que face aux enjeux que sont les enjeux partagés, hein, évidemment, il a tout un chapitre sur les biens communs de l'humanité, l'air, l'espace, la terre, la mer, ce qui est assez intéressant. Donc face à ça, il y a évidemment des enjeux partagés, mais il y a aussi évidemment des intérêts propres aux États, et on voit émerger un axe entre les États-Unis et la Chine, avec un troisième point du pôle un peu particulier qui est la Russie, qui est un pays qui connaît bien, et l'Union européenne dans tout ça, qui cherche un petit peu sa place.
Oui, c'est d'ailleurs, ce livre s'appelle L'affolement du monde, mais il aurait pu s'appeler aussi bien L'éclatement du monde, puisque il s'agit en fait de montrer ce qui est la formule qu'il dit à la fin. Nous sommes dans un monde où il y a une multipolarité sans multilatéralisme, c'est-à-dire différents pôles de puissance, mais la fin justement de ce multilatéralisme qu'on avait essayé de mettre en place avec l'ONU, etc. Et aujourd'hui, on voit très bien qu'il n'y a plus lieu du tout, puisque les États-Unis, eux, font preuve d'unilatéralisme et que les grandes instances internationales sont assez impuissantes à gérer tous les problèmes qui sont très bien décrits dans ce livre. Alors, l'approche de Thomas Gomard, je pense qu'on pourrait la qualifier de réaliste dans les grandes écoles des relations internationales. D'ailleurs, lui-même se réclame de la figure de Machiavel en introduction, en opposant le livre s'ouvre par une confrontation entre la figure de Machiavel et celle de Savonarole, le prêcheur de Florence, et il fait un peu un parallèle entre la situation des cités-états au moment de l'époque de Machiavel, qui devint d'ailleurs la proie des monarchies alors qu'elles étaient persuadées elles-mêmes d'être une figure de modèle politique, et nos états-nations aujourd'hui, notamment nos états-nations européens, qui ont l'impression d'être un modèle politique mais qui sont en fait en train de devenir la proie d'empires et de grandes forces qui sont beaucoup plus puissantes qu'elles. Et donc, sa volonté dans ce livre est d'opposer à la prédication qui fustige de Savonarole, une vision un peu utopique des relations internationales, en tout cas idéaliste, la pensée qui dévoile de Machiavel, cette idée que les rapports de force gagnent toujours dans les relations internationales par rapport aux utopies, et qu'on ne peut pas avoir une façon utopique de voir les choses. Et c'est vraiment l'approche revendiquée de ce livre, qui lui donne d'ailleurs un côté peut-être parfois trop technique, parfois un peu trop, on allait dire, réaliste, c'est-à-dire trop proche des enjeux socio-économiques. Et peut-être pas assez théorique dans l'idée des relations internationales d'un point de vue purement théorique. Mais c'est un livre quand même très intéressant pour comprendre la pluralité des enjeux contemporains.
Oui, Jean-Pierre Beau, avec cette position affichée et revendiquée par Thomas Gomard, de l'expert en géopolitique, qui sait très bien qu'il regarde la géopolitique d'un certain endroit. C'est-à-dire qu'il dit bien que toute analyse est tributaire des biais de celui qui s'y risque. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il essaie de sortir de cette position. Thomas Gomard, il est français, il est en Europe, et il nous montre comment... Et donc, finalement, sa propre difficulté, ou disons, ses propres atermoiements pour essayer de comprendre ce qui se passe dans le monde, montre bien qu'il y a la situation de l'Europe aujourd'hui qui est coincée entre les États-Unis et la Chine, avec la Russie, comme je le disais, un petit peu en satellite.
Oui, et puis Thomas Gomard insiste beaucoup sur, j'ai justement retrouvé un passage, c'est page 155, où il dit « L'évolution des budgets de défense au cours de la dernière décennie traduit le retour des grandes stratégies de puissance nationale auxquelles les Européens semblent avoir renoncé. » Et ça, c'est quand même un point central, parce que finalement, comme je le disais, après le 11 septembre, il y a eu tout un cycle où effectivement on parlait déjà de l'éclatement du monde, mais c'était sur un mode un peu Mad Max. C'était, on disait voilà, l'Occident à nouveau fait face à des grappes de combattants sans frontières. On est face à une géopolitique sans frontières, les territoires, les frontières, ça c'est fini. Et donc ça va être l'Occident qui va essayer. Donc c'était la question du drone, etc. Comment on va aller se projeter, comment on va faire face avec des armées nationales qui ne sont pas préparées à des groupes type djihadistes, etc. C'est-à-dire des grappes de combattants donc sans frontières. Et donc il y a eu plein de débats là-dessus, à nouveau d'éthique militaire, de morale, la question du drone avec tous les débats que ça engage, etc. Et là, on voit Thomas Gomard qui revient complètement à autre chose, qui dit « Mais non, non, attendez messieurs, dames, en fait, vous êtes allés un peu vite en besogne. » Le jeu des puissances souveraines revient au galop. Et au milieu de ce jeu, donc effectivement, la Russie, la Chine, les États-Unis, qui n'ont pas du tout l'intention de renoncer à leur souveraineté, au contraire, qui sont cabrés sur cette question de la souveraineté, sur leurs frontières, sur le budget militaire, etc.
Et donc, n'ont pas renoncé non plus à la possibilité d'étendre cette souveraineté. C'est ce que montre bien Thomas Gomard. C'est-à-dire qu'on avait tendance à penser que, par exemple, la Chine, par le biais du commerce international notamment, allait trouver un développement qui n'irait pas chercher dans la puissance militaire, le complément de sa puissance économique. Et ce que montre Thomas de Gomard, c'est que c'est une illusion. C'est-à-dire que, évidemment, la Chine cherche à avoir aussi un impact géopolitique sur son environnement immédiat et même plus lointain avec, par exemple, cette nouvelle route de la Chine. La route de la soie.
Oui, et alors justement, enfin, un des points intéressants du livre, c'est que la Chine, la Russie, mais ça apparaît évidemment pour beaucoup de gens comme des puissances hostiles ou ambiguës à l'égard de l'Europe et de l'idéal européen. Mais jusque-là, et Gomard insiste beaucoup là-dessus, l'Europe considérait qu'elle pouvait s'en remettre du point de vue de sa sécurité et de cette hostilité potentielle d'un expansionnisme chinois ou d'une sorte de volonté de puissance russe aux États-Unis. Et là, un point qui est fort dans le livre, c'est que il montre qu'avec Trump et avec la nouvelle politique de Trump, eh bien, les Européens se retrouvent extrêmement isolés. Et donc même on sent pointer dans son essai comme ça à l'horizon une sorte de retour, ça y est, de pas de l'anti-américanisme, mais d'un certain imaginaire anti-américain. Ça veut pas dire que lui donne là-dedans. Mais en le lisant, je me suis dit peut-être qu'on va revenir à ça. Vous voyez, il y avait ce fameux livre, très bon livre de Philippe Roger qui s'appelait L'ennemi américain, sur des décennies, tout l'imaginaire anti-américain en France. L'Amérique à la rage, disait Sartre. Et là, avec Trump, avec tout ce qui se passe, avec cette espèce d'abandon de l'Europe par Trump face à d'autres puissances justement souveraines et apparemment hostiles, eh bien, on sent que l'axe européano-américain a du plomb dans l'aile.
Eugénie Bastier.
Oui, ce qui est intéressant aussi, je trouve, dans ce livre, notamment lorsqu'il parle de la France, c'est d'essayer de nous dégager de la seule idée que le problème numéro un de la France en relations internationales serait le terrorisme, et notamment le terrorisme djihadiste. Il le dit à la fin très clairement, la France ne doit pas subordonner sa politique internationale à la lutte contre le djihadisme, parce que, en fait, en réalité, les pressions géoéconomiques, ce qu'il appelle la géoéconomie, sont beaucoup plus importantes à long terme, et notamment la puissance chinoise, et nous sommes pris en étau entre les États-Unis et la Chine, notamment sur un point de vue, du point de vue du numérique et des données. Comment préserver notre autonomie stratégique du point de vue de la défense? Tous ces enjeux-là sont finalement à long terme beaucoup plus importants que l'enjeu djihadiste qui finalement sera réglé à court terme, même si évidemment la menace dure toujours, mais disons que il remet un peu les pendules à l'heure en disant finalement ce ne sont pas les poignées de combattants djihadistes qui menacent véritablement la survie de la France en tant que nation et en tant que puissance, c'est plus ces enjeux de puissance géoéconomique qui sont infiniment plus importants et qui menacent véritablement notre souveraineté.
Alors je le disais, hein, la méthode de ce livre, c'est d'éclairer les logiques de puissance et les logiques sociétales avant de faire un effort de prévision à court, moyen et long terme, et donc ça à chaque fois sur un enjeu, donc 10 enjeux géopolitiques qui sont sélectionnés par Thomas Gomard. Et vous l'avez dit, Eugénie Bastier, il y a ce concept de géoéconomie qui apparaît dans le livre et qui est une façon parmi d'autres de montrer à quel point on est dans un monde complexe et comment il est difficile de le comprendre sans en montrer les différentes couches. Et donc géoéconomie, c'est un concept qu'il emprunte à Edvard Ludwak et qui en gros nous dit que la compétition internationale s'est déplacée du terrain militaire au terrain économique, c'est une sorte de discours sur le monde, il nous dit c'est une réalité et en même temps ça ne remplace pas le reste. Et donc il empile comme ça, Jean Birnbaum, Thomas Gomard, empile un petit peu les couches de compréhension, les couches d'analyse pour essayer de comprendre à la fois l'affrontement des puissances, mais aussi les grands enjeux que sont le changement climatique, la conquête de l'espace, les sécurités sur le cyberespace par exemple.
Oui, de ce point de vue, il y a une forme de vertu à ce livre. C'est-à-dire que, comme souvent, il y a quelque chose qui a l'air un peu modéré ou tiède, parce qu'il n'y a pas un tranchant de l'argumentation ou des thèses qui prétendent dire la vérité des choses. Finalement, il y a une forme de prudence. Et je pense que la prudence est un mot qui arrive dès le prologue. Je pense que c'est intéressant, parce que pendant très longtemps, sur ces sujets-là, et encore aujourd'hui, sur beaucoup de plateaux de télé ou ailleurs, on a tendance à avoir envie de trancher, d'avoir des avis définitif, d'être dans le tout noir, tout blanc. Or, en fait, il y a une sorte de courage de la prudence. Je parlais tout à l'heure de ce livre de Kagan, La puissance et la faiblesse. Il y a une puissance de la prudence, et Thomas Gomard nous le montre. Aujourd'hui, dans le monde tel qu'il est, eh bien, on a besoin de comprendre les choses, de voir où on en est, et notamment, tout simplement, et c'est une des vertus, on y revient de ce livre, de savoir d'où on parle et qui nous sommes au moment où nous analysons les choses. Il y a encore beaucoup d'Européens et de Français en particulier. En France, il y a une tradition universaliste et une ambition nationale extrêmement forte. Il y a encore beaucoup de gens qui pensent que l'Occident et l'Europe en particulier sont cause de tout, que c'est le seul acteur de l'histoire, le seul acteur sur la scène géopolitique. Thomas Gomard montre bien que non, de moins en moins, et que même les principaux acteurs sont peut-être aujourd'hui ailleurs. Et de ce point de vue, il complète un peu ce qu'avait dit Huntington. Vous savez que sur Huntington, il y a toujours une sorte de... dans son Choc des civilisations, il y a un peu un malentendu autour de ce livre. On pensait qu'il souhaitait le Choc des civilisations. Huntington, en fait, il ne faisait que décrire un choc à venir où les enjeux de civilisation seraient très forts, et lui était contre l'intervention en Irak, et surtout il n'arrêtait pas de marteler que le grand problème de l'Occident c'était de prétendre avoir la vérité, de prétendre être porteur d'un universel fort, voué à rayonner dans le monde entier, à imposer ses valeurs, ou en tout cas à les faire rayonner, à les rendre désirables, etc. Et donc finalement, Thomas Gomard, en approfondissant cette espèce de démiettement et de dissémination de la puissance, et en montrant que non seulement on n'est pas seul au monde, mais que nous ne sommes que des acteurs parmi d'autres sur la scène géopolitique, eh bien complète le geste de Huntington qui s'en prenait à une forme d'arrogance occidentale.
Oui, Eugénie Massé, c'est vraiment quelque chose qui transparaît à la lecture de ce livre, même si c'est pas formulé de manière toujours aussi directe par Thomas Gomard. C'est à la lecture de ces différents cas, étudier des enjeux politiques, qu'on se rend vraiment bien compte à quel point il faut sortir évidemment d'une vision occidentalo-centrée ou européo-centrée de la politique internationale. Et par exemple, surtout sur le travail qu'il mène sur la question de la mondialisation, c'est-à-dire il dit bien, l'UE aujourd'hui se délite, son projet de mondialisation qui reposé sur l'économie de marché, la liberté de circulation ou la démocratie représentative est en difficulté. Il n'y a plus de lien automatique entre le libéralisme économique et le régime politique démocratique, par exemple. On l'a vu récemment avec le président Xi Jinping qui est allé défendre le libre-échange à Davos. Enfin, c'était l'année dernière, c'était pas le dernier Davos, c'était celui d'encore avant. Et ce que nous montre Thomas Gomard, c'est qu'en fait, il y a des projets de mondialisation concurrents. Il y a celui de l'Union européenne, évidemment, mais qui aujourd'hui entre en concurrence, par exemple, avec celui de la Chine. Il parle d'un consensus de Pékin qui est opposé au consensus de Washington et qui dit ce consensus de Pékin, non-ingérence et absence de conditionnalité politique pour les investissements économiques, ce qui évidemment est bien différent de ce que proposent les Occidentaux au reste du monde.
Un des points les plus saillants du livre, c'est l'extraordinaire faiblesse de l'Europe et de l'Union européenne dans ce nouvel affolement du monde. Et finalement, cet affolement du monde touche particulièrement l'Europe, puisque c'est l'Europe qui est la plus affolée, la plus déboussolée, pour utiliser le terme qu'il emploie dans son livre, dans cet affolement du monde, là où finalement, les grandes puissances telles que les États-Unis, la Russie et la Chine avancent avec un agenda précis. Elles savent où elles vont. La Chine, évidemment, déploie les nouvelles routes de la soie dans une stratégie de nouvelle mondialisation, justement. La Russie avance ses pions en Syrie, ailleurs sur la scène internationale, et de retour sur la scène internationale. Les États-Unis ont fait, avec Trump, un choix délibéré d'unilatéralisme. Et l'Union européenne apparaît profondément déboussolée, puisqu'on ne sait pas exactement où elle va. Et puis, les pays à l'intérieur de l'Union européenne ont évidemment des agendas différents. Et il le dit dans une formule que je trouve assez juste, il dit le projet de paix perpétuelle de nature kantienne qui était au cœur de l'Union européenne, eh bien se heurte à un monde de plus en plus hobbesien où finalement c'est l'intérêt et le retour des nations qui priment. Et c'est toute la question qu'il laisse ouverte à la fin de son livre, c'est comment l'Union européenne peut retrouver une place dans ce dérèglement généralisé. Et lui, bien sûr, dit qu'une des faiblesses principales, alors c'est ce qui fera peut-être le lien d'ailleurs avec le livre suivant, mais c'est la question de l'armement. Il dit que les Européens ont sous-estimé complètement la question de la défense. Ils se sont désarmés en fait pendant les 30 dernières années et que ça devient une question très importante et très urgente. Et il pose la question de l'autonomie stratégique de l'Union Européenne. Est-ce que les Européens doivent prendre la voie de se défendre seuls, sans l'aide des Américains, et comment, sous quelle forme? Je pense que c'est une question qui sera essentielle pour les élections européennes à venir, si tant est qu'il y a un débat sur le contenu.
Eh bien, puisque vous me proposez une transition, Eugénie Bastier, je vais m'en saisir. Voilà. Alors, Thomas Gomard, L'affolement du monde, 10 enjeux géopolitiques, c'est publié aux éditions Talendier.
France Culture, avis critique.
Raphaël Bourgois.
Cold stairs in the night, tears rolled down, another sad clown sitting in the room. Ash when tears, boy, do you really love me? No. Cold stairs in the night, tears rolled down, another sad clown sitting in the room. Ash when tears, boy, do you really love me?
By a demon, they won't leave it inside him. They gon' leave him on Sunday. In a one-man confessional with a high fever, dry heaving and hollering. Check the lock, bolt the door, chop the cord on the boat, float to shore, ain't leaving the island. Devil whistles in his ear, out of tune, on an empty ass bed, can't remember how to spoon. Can't forget how the spoon was the bowl for the soup for his arm when his arm had a cold. Now the cold got his feet tied up in the sheets. Sweat drips from his cheeks, he gon' die in hospital clothes. Covers make me itch. Head I question. Not my own. These covers make me sick.
Deuxième temps de l'émission, je vous propose de nous pencher maintenant sur le livre de Jean-Pierre Dupuis, La guerre qui ne peut avoir lieu, publié chez Desclés de Brouwer. L'auteur est philosophe des sciences, polytechnicien de formation, il est aujourd'hui professeur à l'université américaine de Stanford, connu notamment pour avoir inventé et théorisé dans un livre de 2004 le concept de catastrophisme éclairé. Jean-Pierre Dupuis appelait alors à une réflexion sur le destin apocalyptique de l'humanité, puisqu'il est désormais acquis que celle-ci est capable de s'anéantir soit en un clin d'œil par l'arme nucléaire, soit à petit feu par le désastre écologique. Cette idée selon laquelle l'arme nucléaire inscrit définitivement l'apocalypse dans notre avenir est également au cœur de ce dernier essai, dans lequel le philosophe reprend ses réflexions sur notre incapacité totale à prendre conscience de la fin des temps. La preuve, selon lui, l'absence criante de débat et même de réflexion sur la stratégie de dissuasion nucléaire qui est censée participer à la stabilité du monde, mais dont les conditions ont profondément changé depuis au moins la fin de la guerre froide. Cette dissuasion prend acte en principe de la puissance démesurée de l'arme atomique pour en faire une arme de non-emploi. C'est parce que la montée aux extrêmes serait trop coûteuse, elle entraînerait l'annihilation de l'humanité, que les protagonistes rationnels cherchent à éviter tout ce qui pourrait déclencher un conflit. C'est en cela qu'on est face à une guerre qui n'a pas lieu. Mais que vaut ce raisonnement à l'ère de Trump et de Kim Jong-un? Que reste-t-il en matière d'acteurs rationnels? Il faut revenir au principe même de la question nucléaire pour y répondre, ce à quoi s'emploie Jean-Pierre Dupuis, dans un exercice de logique et de définition des concepts pas toujours simple à suivre, Eugénie Bastier. C'est une remise en cause assez radicale de l'idée communément admise, selon laquelle l'arme atomique serait en fait son propre régulateur, un facteur de rationalisation des relations internationales.
Oui, voilà, Jean-Pierre Dupuis, rappelons-le, est un disciple de René Girard, et donc très marqué par la théorie de la rivalité mimétique, et quoi de mieux que le champ de la dissuasion nucléaire pour appliquer cette fameuse théorie de la rivalité mimétique, puisqu'on est là bien sûr au cœur de ce système découvert par René Girard.
Qui, en deux mots, rappelé pour nos auditeurs.
Qui dit que deux rivaux vont s'intéresser au même objet et rentrer dans une logique de rivalité extrême. Et on le voit avec l'arme nucléaire. Ce qu'il montre, Jean-Pierre Dupuis, à travers une exposition parfois très théorique de la théorie des jeux, c'est en quoi la dissuasion nucléaire, finalement, est le summum d'une rationalité humaine, en fait, finalement, devenue folle. Et en fait, sous couvert d'une logique poussée jusqu'au bout, c'est en réalité une véritable folie. Et en fait, il s'interroge à au fait que l'existence de l'arme nucléaire pose un défi extrême à la pensée, puisque il part finalement de ce qu'avait dit Gunther Anders après la catastrophe d'Hiroshima le 6 août 1945. L'humanité est arrivée dans une nouvelle phase, la dernière, ce qu'il appelait l'ère du délai, l'apocalypse est notre avenir. Et pourquoi nous ne nous posons pas la question tous les jours? Pourquoi cela ne nous intéresse-t-il pas? C'est toute cette réflexion qu'essaie de mener Jean-Pierre Dupuis. C'est vrai que c'est une réflexion utile parce que on a l'impression que depuis quelques années, la question nucléaire est passée au second plan derrière la question écologique. Et l'effondrement écologique est quasiment présenté comme plus sûr et plus certain que la catastrophe nucléaire qui avait quand même hanté l'imaginaire occidental pendant toute la guerre froide. Cet imaginaire-là est passé un peu au second plan, mais comme le rappelle très justement Jean-Pierre Dupuis, il est revenu aujourd'hui sur le premier plan avec Donald Trump et ses échanges avec la Corée du Nord. Et il rappelle quelque chose d'important, c'est que l'horloge de l'apocalypse qui a été mise en œuvre, une espèce d'horloge conceptuelle mise en œuvre par certains scientifiques qui date la fin du monde à minuit et met l'horloge à l'heure suivant le degré de potentialité de la catastrophe nucléaire. Aujourd'hui, je crois qu'on est à minuit moins 5.
Minuit moins 2.
Et que c'est donc pire que pendant la guerre froide. Alors qu'on était, passé à minuit moins 20, je crois, dans les années 90. Et donc, il rappelle que nous sommes donc à minuit moins 2 de la catastrophe. Ce qu'on a tendance, bizarrement, à occulter.
Bah, c'est justement parce qu'il est difficile d'envisager sa fin propre qu'on occulte tout ça, Jean-Pierre Dupuis. Mais c'est un peu ce paradoxe qu'essaye d'explorer Jean-Pierre Dupuis, entre autres, hein, puisque c'est toute une réflexion aussi sur véritablement qu'est-ce que c'est que cet objet nucléaire.
Oui, mais quelque part, je dirais comme Eugénie Bastier que la question nucléaire, là, est quasiment essentiellement pas un prétexte, mais en tout cas une occasion de s'interroger sur le rôle de la folie dans la géopolitique et le rôle de la folie en général dans nos vies. Effectivement, Eugénie Bastier a eu raison d'insister sur la filiation avec René Girard. La théorie mimétique, qu'est-ce que c'est? C'est l'idée que c'est une espèce de théorie du désir comme maladie, comme pathologie. Donc c'est l'idée que de toute façon, tout de suite, ce que je désire, c'est toujours ce que désirent les autres. Donc on va rentrer dans un cycle rivalitaire, comme ça, une spirale du ressentiment. Et à un moment donné, pour résoudre ce cycle de violence qui entraîne immédiatement le déploiement du désir, eh bien on va sacrifier un bouc émissaire. Et d'après René Girard, le christianisme est la religion qui va donner la vérité de ce mécanisme du bouc émissaire. Or, en fait, chez Jean-Pierre Dupuis, tout ça est à la fois souterrain et explicite, il le dit très bien. Et ce qui est très intéressant, c'est que d'emblée, il a un geste qui est très girardien, on pourra continuer ensuite à creuser la question, mais il a un geste d'emblée très girardien, dans le sens où il fait quelque chose que très peu de gens font. Il s'inspire de la psychanalyse, il prend les catégories de la psychanalyse. Et ça, aujourd'hui, tout de suite, ça apparaît comme on dit, ah là là, ça va être psychologisant, Trump, etc. D'ailleurs, ce qu'il dit de Trump et de sa psychologie est beaucoup plus intéressant que ce qu'on en dit d'habitude. Et moi, je me souviens d'une grande, pas engueulade, mais une grande adresse du philosophe Jacques Derrida aux psychanalystes du monde entier qui étaient réunis dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne. Et il leur avait dit, c'était il y a quelques années, au début des années 2000, il leur avait dit, mais messieurs, dames, les psychanalystes, je suis votre ami, je vous aime beaucoup, j'ai toujours défendu la psychanalyse, mais quand même, aujourd'hui, avec ce qui se passe, avec le 11 septembre, avec tout ça, enfin, vous devriez avoir quelque chose à dire sur le nouveau théâtre de la cruauté, cette nouvelle scène géopolitique dont on parle depuis le début de cette émission. Jacques Derrida disait, vous qui avez affaire à la pulsion de mort à longueur de journée dans vos cabinets de psy, vous devriez avoir quelque chose à en dire. Eh bien, Jean-Pierre Dupuis, ne serait-ce que pour ça, c'est intéressant ce geste, prend la question de la folie au sérieux. Et à l'horizon de cette question, eh bien, il y a ce que René Girard appelait une rationalité de l'apocalypse.
Oui, je crois qu'il faut lire l'extrait qui est en exergue de ce livre en entier. C'est assez étonnant quand on sait que c'est Donald Trump qui a prononcé ces phrases-là.
En 1990, dans Playboy.
Jean-Pierre Dupuis le cite. Donald Trump, donc, j'ai toujours beaucoup réfléchi à la question de la guerre nucléaire. C'est un sujet qui a beaucoup d'importance dans la manière dont je pense. C'est la catastrophe ultime, extrême. Le monde n'a pas de défi plus important à relever. Et pourtant, personne n'analyse les mécanismes qui y mènent. Personne ne veut en parler. Je crois qu'il n'y a rien de plus stupide que de croire que cela n'arrivera jamais. Juste parce que tout le monde sait que les armes nucléaires ont un immense pouvoir de destruction. Et qu'on va donc se garder de les utiliser. Quelle connerie. Et Jean-Pierre Dupuis dit, c'est extraordinaire parce que j'aurais pu signer cette phrase qu'a prononcé Trump, alors que bon, Dieu sait qu'il ne porte pas dans son cœur Trump, parce que Trump affiche la vérité crue de ce qu'est l'arme nucléaire et l'arme de dissuasion massive, et il dit la vérité que personne ne veut entendre finalement, c'est-à-dire que oui, la catastrophe est possible, et qu'il n'y a rien de plus stupide que de penser que parce que l'arme nucléaire est extrêmement dangereuse et qu'elle serait la fin de l'humanité, eh bien elle ne sera jamais utilisée. C'est précisément cette logique-là qu'il essaie de déconstruire. Il le fait de manière assez magistrale et parfois très très théorique à partir de la théorie des jeux, et il répond finalement à ce qu'il appelle d'ailleurs le degré zéro de l'argumentation, qui consiste à dire la dissuasion nucléaire ça marche puisqu'il n'y a pas eu de guerre, puisque la bombe n'y a pas eu de guerre nucléaire depuis que ça existe. Et finalement il dit que c'est un argument complètement fallacieux et tautologique et qui n'est pas du tout prouvé, et qui est vraiment c'est l'argument numéro un qu'on emploie. Il y a d'ailleurs la plupart des Américains aujourd'hui justifient Hiroshima et Nagasaki en disant que c'était un mal nécessaire pour arrêter la Seconde Guerre mondiale. Lui, il dit pas du tout. Enfin, on ne sait pas en fait si on aurait pu arrêter la Seconde Guerre mondiale de manière différente. Si on avait par exemple laissé l'Union soviétique rentrer en guerre contre le Japon, si on avait laissé l'empereur rester à sa place, etc. Il dit également, rien ne prouve que c'est pas parce qu'il n'y a pas eu depuis 70 ans de guerre conventionnelle interétatique très grave entre puissances nucléaires qu'il n'en aurait pas eu s'il y avait eu la puissance nucléaire. Ça, c'est vraiment un raisonnement qui est complètement fallacieux. Rien ne prouve que si les grandes puissances n'avaient pas la bombe nucléaire, eh bien, il y aurait eu quand même des guerres entre elles. Elles auraient pu quand même tirer aussi les leçons de la Seconde Guerre mondiale et ne pas se remettre à guerroyer. Et donc, il en tire la conclusion en disant que finalement, rien ne prouve que la dissuasion nucléaire soit un facteur de paix.
C'est vraiment une façon de décortiquer par la philosophie, la logique, cette idée de dissuasion nucléaire, Jean Birnbaum. Et alors, Ginny Bastier le disait à l'instant, il y a une façon d'écarter les arguments un petit peu premier degré du style puisqu'il n'y a pas eu de guerre atomique depuis l'invention, enfin depuis Hiroshima et Nagasaki, c'est bien que la dissuasion marche. Il rappelle un certain nombre d'exemples d'apocalypse qui ne se sont pas produites, mais on est passé très très près. La dernière, c'était le 13 janvier 2018, une alerte qui a été lancée sur Hawaï à ses habitants. Menace de missiles balistiques sur Hawaï, mettez-vous immédiatement à l'abri, ceci n'est pas un exercice. Et donc on imagine bien qu'un président de Donald Trump, par exemple, qui n'a pas forcément toutes les informations, pourrait lancer une attaque atomique sur la foi de ce type d'information. Et donc, ce que nous explique Jean-Pierre Dupuis, c'est qu'on est toujours, sur le fil, en fait. Et cette dissuasion, on a l'impression qu'elle marche, mais finalement, on n'est pas si sûr que ça qu'elle fonctionne.
Oui, et puis par ailleurs, ça a déjà eu lieu. Il parle de Nagasaki, il parle d'Hiroshima, il parle de tout ça très bien. Il y a une espèce de va-et-vient très beau et mélancolique dans le temps avec Jean-Pierre Dupuis. À un moment donné, il reprend une sorte de fable que Günther Anders, enfin une parabole de Günther Anders, philosophe allemand, comme vous savez, compagnon de d'Anna Arendt, qui reprend l'histoire du déluge et de Noé, et qui lui fait dire « Quand le déluge aura emporté tout ce qui est, tout ce qui aura été, il sera trop tard pour se souvenir, car il n'y aura plus personne. Alors il n'y aura plus de différence entre les morts et ceux qui les pleurent. Si je suis venu devant vous, c'est pour inverser le temps, c'est pour pleurer aujourd'hui les morts de demain. » Et ça, c'est très intéressant. C'est le deuil des morts qui n'ont pas encore eu lieu. Et ça, vous savez, il y a un passage très beau dans le journal de deuil de Roland Barthes, qui le consacrait à la mort de sa mère, où il parle, il a une phrase comme ça, il dit « J'ai peur de la catastrophe qui a déjà eu lieu. J'ai peur de la catastrophe qui a déjà eu lieu. » Et ce qui est très beau dans le livre de Jean-Pierre Dupuis, c'est qu'on est un peu dans cette veine-là. Il montre que pour sauver l'avenir, eh bien, il faut qu'on soit d'abord mu, nous toutes et nous tous, par la peur de la catastrophe qui a déjà eu lieu.
Et je trouve que ce qui est intéressant, pour faire un lien entre ce livre et le précédent, on parlait du réalisme en relations internationales, et ce qui explique très bien Jean-Pierre Dupuis, c'est que finalement, le principe de la dissuasion nucléaire a relégué ce qui était la guerre juste dans le camp de l'idéalisme en relations internationales, là où la guerre juste se voulait réaliste, justement, en disant la guerre est peut-être nécessaire et justifiée dans certains cas, et selon certains principes, notamment le principe de proportionnalité de la riposte et de non-discrimination et de discrimination, c'est-à-dire de faire la différence entre les civils et les militaires. Il dit finalement la dissuasion nucléaire, en instaurant cet équilibre de la terreur, comme on dit, en disant finalement le principe de la dissuasion nucléaire, c'est de dire on va viser des civils si jamais se déclenche le mécanisme, et bien rompt avec cette tradition de la guerre juste et met en place une fondation de l'équilibre international sur des fondations immorales. Pour faire peur et pour que la dissuasion fonctionne, il faut avoir l'intention de tuer des civils. Pour résumer vraiment rapidement, il faut avoir l'intention de tuer en masse des civils. Ce qui rompt véritablement avec tous les principes de la guerre qui est auparavant. Et deuxième chose, ce que dit Jean-Pierre Dufy, dit bon, d'abord c'est immoral et en plus c'est complètement inefficace et irrationnel parce que en réalité il y a un caractère fondamentalement non crédible de la dissuasion nucléaire fondée sur la rationalité pure, puisque personne qui serait doté d'une rationalité minimale ne peut accepter d'appuyer sur le bouton nucléaire et de déclencher la destruction totale de l'humanité, puisque il explique bien que le principe de l'équipe de la terreur, c'est que si quelqu'un appuie sur le bouton, et bien par un mécanisme finalement d'échange, on ne peut aller que jusqu'au bout. Et il dit que quelqu'un qui est doté de rationalité ne peut pas appuyer sur ce bouton. Et il cite d'ailleurs l'exemple de Valéry Giscard d'Estaing, qui dans ses mémoires avait avoué que on lui avait fait faire un exercice justement de est-ce qu'ou pas il faut appuyer sur le bouton nucléaire si l'armée soviétique rentrait en Allemagne, etc., et que lui avait dit « je ne peux pas appuyer sur le bouton nucléaire ». Il l'a dit dans ses mémoires, et d'ailleurs l'état-major français lui en a énormément voulu, parce qu'il a sapé toute la crédibilité de la dissuasion nucléaire française. Mais Jean-Pierre Dupuy dit « mais de toute façon, ça n'est pas crédible ». Et c'est pour ça qu'après il parle de la question du tigre nucléaire, c'est-à-dire la dissuasion existentielle, c'est-à-dire ce n'est pas véritablement l'intention ou pas des dirigeants qui compte. L'arme nucléaire, finalement, c'est un tigre, et comme un tigre, quand on lui marche sur la patte, il s'énerve. On ne se bat pas avec un tigre, c'est quelque chose d'irrationnel, quasiment animal, et c'est pour ça qu'il dit que la métaphore du tigre est très intéressante.
Oui, il y a tout est résumé hein, dans une formule qui donne le titre, je crois, une sous-partie, mais qui, à mon avis, est vraiment centrale dans la réflexion de Jean-Pierre Dupuy dans ce livre « La guerre qui ne peut pas avoir lieu » donc chez Desclée Brouwer. C'est « Est-il raisonnable d'être rationnel ?» C'est une question que pose Jean-Pierre Dupuy dans le livre, à propos justement de cette destruction mutuelle assurée, cette MAD, Mutual Assured Destruction, donc MAD qui veut dire aussi fou en anglais. Donc il a tout un développement là-dessus, sur la folie nécessaire pour croire à l'utilité, évidemment, de cette dissuasion nucléaire. Et en fait, l'exemple de Trump qu'on prenait tout à l'heure est absolument symptomatique pour Jean-Pierre Dupuy. C'est-à-dire que le président qu'on estime probablement le plus fou des présidents américains, c'est celui qui a le mieux compris la dissuasion nucléaire. Et notamment quand il dit, on s'était beaucoup étonné, on l'avait beaucoup critiqué pour avoir refusé de dire qu'il n'utiliserait pas l'arme atomique contre l'Europe, le cas échéant. Il avait dit non, je ne peux pas dire que je n'utiliserai jamais l'arme atomique. Et ce que nous explique Jean-Pierre Dupuy, c'est qu'en fait, en disant ça, il est tout simplement dans la lignée de ce qu'est la dissuasion, qui suppose qu'on puisse utiliser l'arme atomique n'importe où, n'importe quand.
Oui, et c'est intéressant parce que Trump donc fait le lien à nouveau avec nos deux livres. Je vous signale quand même que on parle de folie depuis quelques minutes là à propos de Jean-Pierre Dupuy, mais le livre de Thomas Gomard s'appelle L'affolement du monde. Et ce que on peut comprendre à chaque fois à propos de Trump dans les deux, c'est que Trump apparaît comme fou, mais une de ses forces quand même, on passe notre temps à dire là il est entouré de fous apocalyptiques, il est entouré d'évangélistes. Et en fait, bah oui, mais sauf que peut-être qu'il a effectivement un certain sens de l'apocalypse, et donc peut-être la force de ceux qui savent qu'il y a une rationalité apocalyptique, comme le disait René Girard. Et ça, c'est quand même une des questions qui se pose quand on lit le livre de Jean-Pierre Dupuy. On se dit, mais finalement, où il veut en venir? Il s'inspire en permanence donc de René Girard. Et qu'est-ce qu'il veut dire? S'il est comme René Girard, vous savez que René Girard souvent faisait appel à un élément de foi, et on lui disait, quand on lui disait, mais là, vous basculez vers la foi, il disait, ah oui, mais vous n'êtes pas obligé de me croire. Je me souviens très bien, il nous regardait comme ça avec ses grands yeux, il disait, oui, mais là, les lecteurs sont pas obligés de me croire. La question, c'est que René Girard a toujours assumé le fait que ses livres étaient tous des essais qui martelaient que l'évangile était la vraie science de l'homme, que le christianisme avait la vérité du monde, que cette rationalité de l'apocalypse, seul le christianisme pouvait lui faire face et la surmonter. Et donc on se demande un peu où veut en venir Jean-Pierre Dupuy de ce point de vue-là, puisque René Girard, lui, n'avait aucun problème à dire que tous ses livres étaient une sorte d'apologétique religieuse du christianisme. Vous savez qu'il avait fait un livre sur Clausewitz, dont parle aussi Jean-Pierre Dupuy, donc ce grand général allemand qui s'est jamais remis de la défaite de Iéna. Et René Girard disait que on n'avait pas bien compris ce que disait Clausewitz dans son livre sur la guerre, qu'il y avait trop de lectures rationalistes comme celle de Raymond Aron. Il disait non, la vérité de Clausewitz, c'est qu'il a compris qu'aujourd'hui nous sommes déjà rentrés dans un processus apocalyptique. Il a compris avant tout le monde que la montée aux extrêmes, son nom réel, c'était Satan. Et donc chez René Girard, il y a ce lexique religieux qui est omniprésent, avec cette idée assez forte et assez belle que finalement, ça n'est pas du tout du pessimisme, tout ça. Il disait dans son livre sur Clausewitz, Dire que le chaos est proche n'est pas incompatible avec l'espérance, bien au contraire. Et ça me fait penser, je terminerai par là, à ce graffiti, vous savez, qui a fait beaucoup couler beaucoup d'encre sur un mur à Nanterre, en marge du mouvement Nuit Debout, où il avait été écrit dans un des bâtiments « Une autre fin du monde est possible ». Effectivement, une autre fin du monde est possible, ça veut dire à la fois peut-être une autre destruction du monde, laissez-nous choisir notre destruction du monde alors qu'on nous en annonce tellement de différentes, mais aussi une autre finalité, notre réalisation du monde, peut-être que se projeter dans une réalisation du monde désirable, dans une finalité désirable du monde, c'est aussi pouvoir assumer, porter sur ses épaules, en prenant à la fois en compte la question de la rationalité et aussi celle de l'apocalypse au sens religieux du terme, eh bien,
oui.
La fin, la destruction également éventuelle de notre planète.
Oui, et on n'a pas ce sentiment d'espérance à lire Jean-Pierre Dupuis, parce que ce qui est frappe dans ce livre, c'est le sentiment d'une impasse totale. Et dont il décrit finalement minutieusement la formation de cette impasse, mais il ne laisse quasiment aucune porte de sortie, enfin aucune même, puisque même la dénucléarisation totale du monde n'apparaît pas comme une solution, puisqu'il le dit, même si nous arrivons à démonter tout l'arsenal nucléaire existant, eh bien, nous aurons toujours la possibilité technique de faire ressurgir cet arsenal, de réinventer la bombe nucléaire. Donc, une fois que nous avons inventé cette arme, eh bien, nous n'avons plus la faculté d'oublier comment nous l'avons fabriquée. Et finalement, donc cette menace, elle sera toujours permanente, elle sera toujours là. On ne peut pas oublier un savoir technique qu'on a inventé. Et finalement, on a le sentiment à lire ce livre que ce qu'on peut faire de mieux, c'est de retarder l'échéance de cet apocalypse, mais que de toute façon, elle sera là. Toujours inéluctable. Et ce qui se dessine, c'est finalement une humanité en sursis dans ces lignes, dans ces pages, ce qui nous invite en tout cas à la prudence extrême, et à un souci, comment dire, d'apaisement et de vigilance. Mais en tout cas, c'est un livre assez vertigineux, j'allais dire presque poignant, qui laisse en tout cas des traces quand on le lit, parce qu'on est face à quelque chose qu'on essaie d'oublier et qui est vraiment essentiel et vertigineux.
Mais juste un mot, Ginny Bastier, sur cette approche presque sacrée de l'arme atomique que développait Jean Birnbaum, en reprenant René Girard, véritablement à propos de ce livre de Jean-Pierre Dupuis. Évidemment, c'est vrai qu'il y a tout un développement sur l'auto-extériorisation de la violence. Voilà, c'est un peu l'idée de René Girard. On utilise le bouc émissaire pour extérioriser la violence. Et donc, l'arme atomique devient dans cette réflexion une façon de relever du sacré, l'arme atomique relève du sacré, et c'est un objet sur lequel on externalise une violence qui n'a pas lieu.
Oui, il dit le sacré, selon René Girard, c'est ce qui contient la violence, contient dans son double sens, c'est-à-dire celle qui possède la violence, c'est la violence, et en même temps c'est celle qui la contient, c'est-à-dire qui la retient, qui l'empêche de dégénérer et de devenir incontrôlable. Et c'est tout le rapport entre violence et sacré chez René Girard. La violence contient le sacré et le sacré contient la violence. C'est vraiment une articulation et une dialectique entre les deux. Et à ce titre-là, la bombe est notre nouveau dieu. Et je crois que ce qui est très fort aussi, c'est quand même la critique qu'on peut voir en surplomb, qui est la critique du danger de la rationalité pure. C'est-à-dire que la rationalité pure est une folie. Et il prend l'exemple justement biblique dans l'évangile, lorsqu'on dit il faut que l'un meure pour que la multitude soit sauvée, et bien cette espèce de logique calculante qui veut le sacrifice d'un seul pour que la multitude soit sauvée, et bien c'est aussi ce danger de cette rationalité pure instrumentale.
Oui, il est possible de donner des fondements rationnels à l'efficacité de la dissuasion nucléaire. Et cette conclusion est épouvantable. Ce sont les derniers mots du livre de Jean-Pierre Dupuis, La guerre qui ne peut pas avoir lieu, chez Des Clés de Brouwer.
L'instant critique.
L'instant critique, on parle de l'actualité des revues en cette fin d'émission. Alors, je vous avais proposé un article du débat sur la question de l'opposition en France entre les progressistes et les nationalistes. Est-ce que cette opposition a un sens? C'est un article d'un jeune doctorant qui s'appelle Sergueï Fedunin, qui est publié donc dans le dernier numéro de la revue Le Débat. Je crois que Ginny Bastier, vous avez pu le lire. Jean Birnbaum, vous n'avez pas eu l'occasion. Problème d'internet, d'ouverture de documents, mais vous allez nous parler quand même d'une revue. Mais juste un mot sur cet article.
Il est mieux équipé que nous.
Mais ça doit être pour ça. Voilà, le Figaro est bien mieux équipé que le Monde en termes d'ordinateur. Donc Ginny Bastier, c'est un article qui est un article assez court, mais qui revient bien sur l'enjeu qui va être celui des prochaines élections européennes. C'est-à-dire, est-ce que véritablement on va voir s'opposer ces deux camps comme on a essayé de les opposer lors des précédentes élections présidentielles?
Oui, c'est un article qui n'est pas inintéressant, mais en même temps qui s'attaque à une question qui paraît un peu évidente, car en effet, le clivage progressiste contre nationaliste qui a été en effet mis en avant par Emmanuel Macron à un certain moment, même si aujourd'hui justement il semble avoir renoncé à cette approche binaire, paraît de toute évidence assez réducteur et binaire. L'auteur s'attache à le décrire et à le démontrer sur quelques pages. Il me semble que ça relève plutôt de l'évidence. Il le dit très bien, ce clivage d'abord sert les populistes, hein, puisque eux-mêmes se revendiquent désormais de cette opposition binaire entre le nationalisme et un progressisme déraciné, mondialisé, etc. Et lui dit qu'il faut remplacer ce clivage extrêmement réducteur et contre-productif, voire même nocif, par finalement accepter l'idée qu'il y ait différentes visions de l'Europe qui s'affrontent, tout simplement. Une vision, c'est pas le nationalisme contre le progressisme européiste, mais différentes visions de l'Europe. On le voit très bien aujourd'hui avec l'axe Salvini, Marine Le Pen et Orban qui veulent prendre le pouvoir à l'intérieur du Parlement européen pour prendre une autre Europe, une Europe des frontières, une Europe des valeurs morales, une Europe qui propose de protéger les peuples contre les flux migratoires, etc., contre une Europe qui serait une Europe du libre-échange, une Europe de l'ouverture à l'autre, etc. Mais ce sont deux projets de société, deux Europes différentes et non pas un clivage réducteur et manichéen entre d'un côté ceux qui seraient uniquement nationalistes et ceux qui seraient uniquement fédéraliste, pro-européen, progressiste. Ce clivage-là, finalement, personne ne le revendique dans la sphère politique, à part Emmanuel Macron, mais encore une fois, il a renoncé. Donc, il n'a pas véritablement d'intérêt.
Oui, évidemment, c'est un clivage qui enferme, nous explique dans cet article Sergueï Fedunine, qui nous enferme le discours politique dans une opposition manichéenne et qui ne représente pas vraiment la réalité. On s'en rend compte évidemment chaque jour. Alors Jean Birnbaum, vous avez lu autre chose en fait, tout simplement, parce que vous n'aviez pas pu lire l'article du débat, vous n'avez pas réussi à l'ouvrir, vous vous êtes dit je vais lire autre chose.
Oui, mais c'est un lien, si vous voulez penser les problématiques dont vous venez de parler. Il y a un auteur formidable, d'ailleurs, qui est cité dans le livre de Jean-Pierre Dupuis, à la page 20, c'est Claude Lefort qui nous manque beaucoup, qui est un grand philosophe qui est mort il y a quelques années maintenant, qui est un grand philosophe antitotalitaire, un grand penseur de la démocratie. Et justement, puisque on parle de revue, la revue Esprit, qui est de plus en plus, enfin qui retrouve toujours plus de rayonnement, lui consacre un très beau numéro qui s'appelle L'incertitude démocratique, avec des gens très différents, de différentes générations, différentes sensibilités. Et donc c'est un très bel hommage à un homme qui nous manque énormément, puisque à un moment où aujourd'hui beaucoup de gens avec une forme de légèreté ou parfois de désinvolture ont du mal à voir la différence entre la démocratie et la dictature, et bien Claude Lefort voyait la différence. Il avait de quoi, il était d'ailleurs bien placé pour, puisqu'il, vous savez, il avait fondé avec d'autres, avec Castoriadis, le groupe Socialisme ou Barbarie. Il avait été militant trotskiste, c'est quelqu'un qui avait la dent dure contre la démocratie bourgeoise, donc c'est pas du tout quelqu'un qui était partisan du statu quo ou de l'ordre en place. Mais par contre, avec la question totalitaire, avec la question du stalinisme, du nazisme, etc., il était de ceux qui considéraient qu'il fallait prendre acte qu'il s'était passé quelque chose de très singulier et d'assez épouvantable au XXe siècle, et que donc on ne pouvait pas, disait-il, faire un pas dans la connaissance de notre temps, quel que soit le moment où nous parlons, sans avoir en tête cet épisode totalitaire. Repenser la démocratie, ses failles, ses limites, ses violences, y compris ses violences policières, tous les mensonges dont elle est capable, toutes les limites, la critiquer de façon impitoyable, oui, mais la repenser au miroir de ce qu'a été le totalitarisme, c'est-à-dire une société où il n'y a plus aucun pluralisme possible, alors que la démocratie, disait-il, c'est cet endroit où on ne décrète plus aucune vérité, où le pouvoir est un lieu vide, c'est une formule célèbre de Claude Lefort, c'est-à-dire personne en démocratie ne peut mettre la main sur le pouvoir, personne non plus ne peut prétendre édicter une vérité. Ça a aussi plein de résonances aujourd'hui quand on voit que l'État a des velléités d'édicter ce que serait des fake news ou des nouvelles, des bonnes nouvelles, des mauvaises nouvelles, des nouvelles fausses, etc. Claude Lefort nous permet de penser la singularité, la fragilité et aussi la richesse, le côté précieux des démocraties aujourd'hui.
L'inquiétude démocratique, Claude Lefort au présent, c'est donc le titre du dernier numéro de la revue esprit. Donc voilà, j'ai déjà pas beaucoup de revues pour discuter ici en fin d'émission. On en a fait deux aujourd'hui. On va essayer d'en trouver d'autres pour les semaines à venir. Merci beaucoup Jean Birnbaum et Ginny Bastier d'avoir participé à Avis Critique. C'est terminé. Attaché d'émission, Catherine Denet à la réalisation aujourd'hui, Vanessa Nadjar, et à la prise de son, Valérie Lavalard. Cette émission, vous pouvez la télécharger, la réécouter, vous abonner au podcast sur franceculture.fr à la page d'Avis Critique. Dans quelques instants, Jukebox.